et par actualité.
Bon mercredi à tous, 23 mai 2018. Bienvenue à l'émission Les Paractualités. C'est Hélène Denis avec vous et en manchette, une garderie et un CHSLD partagent leur quotidien. Plus de services pour mieux soutenir les familles des Laurentides, une catastrophe pour les jeunes diplômés et le hockeyeur des Broncos, Ryan Strashnitsky, retrouve des forces à Calgary. En entrevue, Catherine Royer-Bérard, qui nous présentera l'organisme Le Temps d'une pause, et Maryse Boucher, coordonnatrice aux événements et aux communications pour la société Alzheimer de la Naudière, qui nous parlera de la 19e édition de la Marche pour l'Alzheimer. Une garderie et un CHSLD partagent leur quotidien. Les CHSLD sont destinés uniquement aux personnes âgées, pensez-vous? Ce n'est pas tout à fait vrai. Une garderie de Montréal permet en effet à des bambins d'y côtoyer quotidiennement des aînés. Le CHSLD Yvon Brunet n'est pas comme les autres. Il abrite au sous-sol la garderie Lilo qui reçoit 6 enfants de 18 mois à 2 ans. Chaque jour, ceux-ci quittent leur local pour aller rejoindre un étage plus haut des personnes âgées qui les attendent toujours impatiemment. On fait des sorties aux pommes, ils viennent avec nous. À l'Halloween, les résidents sont très fiers. Ils préparent des petits sacs d'Halloween, explique Jennifer McDonald, récréologue au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Lors du passage du journaliste de TVA Nouvelles mardi, l'activité Tam Tam était au programme. Chaque rencontre, les regards s'illuminent, le monde se transforme. Les parents de ces enfants demeurent dans le quartier et ont choisi volontairement ce concept. C'est comme s'apprivoiser à une réalité qui fait partie de la vie et ça devient quelque chose de naturel pour ces enfants-là, souligne Martine Lalande du CSSS Sud-Ouest Verdun. Les médecins demandent un budget pour faire les chirurgies d'implants cochléaires. Les gens sourds ou atteints de surdité profonde peuvent recevoir le plus beau des cadeaux. Le cadeau de l'audition grâce à la chirurgie de l'implant cochléaire IC. Cette intervention miraculeuse qui transforme une vie est maintenant pratiquée couramment dans presque toutes les villes importantes en Amérique du Nord et en Europe, mais pas à Montréal. Au Québec, la chirurgie d'implant cochléaire ne se pratique que dans la ville de Québec. Cela signifie qu'environ 70 % des Québécois qui vivent à Montréal et aux alentours se heurtent à de grandes difficultés pour avoir accès à l'implantation cochléaire. Certains ne peuvent se faire opérer en raison de leurs obligations familiales, de la pression financière ou des exigences du travail qui ne leur permettent pas de se rendre à Québec pour les examens, l'évaluation, l'intervention et les ajustements du processeur vocal, lesquels nécessitent 3 ou 4 voyages distincts pour un total d'environ 2 semaines loin de la famille. Ceux qui se rendent à Québec pour l'intervention doivent assumer des coûts supplémentaires, en plus de subir un stress émotionnel important. Tout cela est injuste et cruel. La situation est pire encore si l'on considère que les personnes concernées doivent déjà composer avec un grave handicap. Notre groupe, formé de médecins, d'audiologistes, de représentants des patients et de politiciens, demande que 70 % du budget consacré à la chirurgie de l'IC et aux activités qui y sont reliées soient transférées immédiatement à Montréal pour que les interventions chirurgicales puissent se faire à Québec et à Montréal. Nous ne demandons pas un cent de plus et le transfert fera économiser de l'argent au gouvernement puisqu'il mettra fin au dédoublement des services d'évaluation et de consultation qui sont actuellement fournis dans les deux villes. Message provenant de l'Association des récipiendaires d'implants cochléaires. Et j'ai le plaisir d'aller rejoindre Catherine Royer-Bérard d'une façon virtuelle, intervenante psychosociale pour l'organisme Le Temps d'une pause. Quel beau nom d'organisme. Bonjour, Madame Catherine Royer-Bérard.
Bonjour, merci beaucoup de nous flatter pour notre nom. Pas confondre avec Le Temps d'une paix.
Est-ce que ça s'est déjà produit?
Ah oui, tout à fait.
Ah là, oui?
C'est des erreurs qui sont très communes, oui. Mais le temps d'une pause, on est un organisme sans but lucratif qui existe maintenant depuis 15 ans. Donc, on est un organisme qui a comme mission générale de maintenir les aînés à domicile et dans la communauté, là.
Et quel service offrez-vous?
On a trois formes de soutien. En fait, on a la première forme de soutien, c'est deux intervenantes de milieu en HLM qui, elles, accompagnent les aînés dans les milieux HLM et qui visent à les maintenir dans le HLM. Mm-hmm. On a deux autres formes de soutien qui sont un centre d'activité de jour pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives de façon modérée et sévère et également un programme de soutien pour famille et amis qui entoure la personne atteinte. Donc, ces deux dernières formes d'accompagnement-là se complètent ensemble. On parle d'un centre d'activité de jour qui vise finalement à faire de la socialisation pour les personnes atteintes. Quand on dit modéré, sévère, c'est très, très important. C'est vraiment notre spécialisation. Et pour ça, on a une intervenante pour trois personnes atteintes. Donc, ça nous permet vraiment de faire un accompagnement qui est personnalisé. Et à gérer également là, les symptômes là, qui sont un petit peu plus envahissants pour les personnes là, qui ont, par exemple, l'Alzheimer, le Parkinson ou encore des séquelles de CV ou de cancer du cerveau ou autres. Mm-hmm. Ouais. Et donc, cette forme d'aide-là, elle est disponible grâce à un soutien financier du PSOC qui fournit...
PSOC.
Oui, donc le programme de soutien aux organismes communautaires. Mm-hmm. Et ensuite, on a également le programme de soutien pour famille et amis, comme je le disais, qui entourent la personne atteinte. Et là, ça se décline en trois autres formes d'aide. Donc, on a des conférences et des ateliers pour, essayer d'informer les familles et amis de ces personnes-là, pour essayer de répondre à leurs questions, finalement. On a également deux conseillères spécialistes en comportement qui, elles, se rendent à domicile et qui regardent là, avec les proches aidants, proches aidantes, comment gérer les nouveaux comportements qui peuvent se dérouler à domicile. Et moi, ce que je fais un soutien finalement psychosocial là, de 6 rencontres gratuites et on regarde ensemble peut-être les limites de l'accompagnement ou encore que me réserve le futur, comment regarder là, qu'est-ce qui s'en vient. Et voilà.
Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes intervenant psychosocial à le temps d'une pause?
Au temps d'une pause, ça fait 2 ans maintenant, là. Donc, on voit environ 500 proches aidants, proches aidantes par année. Donc, ça fait, là, beaucoup de monde, là, qu'on accompagne d'une façon ou d'une autre, là.
Oui. Et, qu'est-ce qu'on vous demande le plus en tant qu'intervenant psychosocial?
Moi, je vous dirais que les questionnements par rapport à l'hébergement, hein, c'est quelque chose qui revient énormément. Est-ce que je vais être obligée d'héberger? Est-ce que, comment ça se déroule également, là? Est-ce qu'il y a un coût associé à ça et tout ça? Donc ça, on le démystifie beaucoup ensemble. Et bien sûr, là, un autre sujet qui revient beaucoup, c'est l'épuisement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épuisement. Donc, on recherche là à mettre des ressources en place ou à voir quelles sont mes limites dans mon accompagnement pour essayer aussi d'avoir un accompagnement bienveillant. On met ça de l'avant beaucoup au temps d'une pause parce que l'épuisement entraîne souvent, c'est des risques d'abus finalement. Là. Donc, on essaie là, de faire un accompagnement le plus bienveillant possible.
Alors, ceux qui peuvent profiter de vos services, ce sont les proches aidants et les personnes qui sont atteintes de déficit cognitif de modéré à sévère.
Exactement. Donc, les personnes atteintes vont au centre d'activité de jour, une fois par semaine, par exemple. Et pendant ce temps-là, ben les familles et les amis ont un répit d'une journée ou de 2 journées, dépendamment. Et le centre d'activité de jour est quand même dans 3 points de service sur l'île de Montréal, soit à Saint-Michel, à Villeray et à Anjou. On dessert finalement toutes les personnes là, qui résident dans l'est et le nord de Montréal. Mm-hmm. Donc, il est possible de nous rejoindre pour avoir plus d'informations et pouvoir peut-être là, inscrire son proche et ainsi pouvoir profiter de nos autres formes de soutien là, en même temps.
Et on vous joint de quelle façon?
C'est possible de nous rejoindre au 514-722-3000 au poste 3036, donc 514-722-3000 au poste 3036 ou encore d'explorer notre merveilleux site web au tempsdunepause.org.
Merveilleux site web, vous en êtes fière?
Oui.
Ouais. Vous êtes combien à l'organisme?
On est environ une vingtaine de personnes, là, quand même. Le centre d'activité de jour, c'est beaucoup de journées, là, avec beaucoup d'intervenantes, intervenants. C'est des éducateurs, des éducatrices spécialisées, des auxiliaires, donc des aides à la personne qu'on appelle, qui assistent finalement là, les personnes atteintes pour assurer un accompagnement vraiment spécialisé. Et puis, là, dans notre équipe du programme de soutien aux familles, à ce moment-là, on est là, 5 personnes là, qui faisons ça. Là.
Est-ce que vous avez besoin de personnel ou l'équipe est complète?
L'équipe est complète, je vous avoue. Là.
Mais tant mieux si ça va bien de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Donc, on a réussi là, à avoir une belle équipe, un beau sentiment d'appartenance et on a vraiment à cœur là, le bien-être des proches aidants, proches aidantes ainsi que les personnes atteintes. Là. On vise vraiment à maintenir la personne au domicile le plus longtemps possible.
Ouais.
Donc, en offrant du répit là, aux familles, ça permet souvent là, de prolonger le maintien à domicile.
Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale pour l'organisme Le Temps d'une pause et non Le Temps d'une paix, malgré que j'imagine que vous procurez beaucoup de paix à certaines personnes.
Peut-être.
Merci pour cette entrevue.
Merci beaucoup, Hélène. Au revoir.
Au revoir. Bloc régional dans le journal lenord.com. Plus de services pour mieux soutenir les familles des Laurentides. En vue d'améliorer les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, et à leurs familles, la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a annoncé un investissement récurrent de 1 976 500 $ dans la région des Laurentides, de même qu'un montant additionnel non récurrent de 259 580 $. Soulignons que ces investissements découlent du plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. Les 35 actions qui le composent contribueront notamment à réduire les listes d'attente et à accroître les services offerts. Rappelons que ce plan résulte du premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l'autisme dans le cadre duquel des personnes ayant un TSA, leurs familles, des experts et des acteurs du domaine ont eu l'occasion d'échanger et de se prononcer sur les actions à mettre en priorité. Pour soutenir les mesures annoncées, le gouvernement du Québec consacre à l'ensemble de la province un investissement annuel récurrent de 29 millions de dollars, ainsi qu'une somme additionnelle de 1,25 million afin de soutenir la recherche, la formation et la production d'outils d'intervention en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. De plus, une somme non récurrente de 11 millions de dollars a été ajoutée afin de réduire les listes d'attente. Les membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIIS, des Laurentides, ont adopté le budget annuel de l'établissement qui s'élève à 1,2 milliard de dollars pour l'année 2018-2019. Ceux-ci ont également établi l'utilisation qui sera faite du nouveau budget accordé en vue de corriger l'iniquité interrégionale. En avril 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait qu'il accordait une somme récurrente supplémentaire de 45,7 millions de dollars au CII3S des Laurentides pour régler la question de l'iniquité interrégionale et ainsi bonifier l'offre de services à la population. Considérant que l'embauche de nouveaux personnels se fera graduellement, le ministère alloue à l'établissement 70 % de l'enveloppe budgétaire, soit 32 millions de dollars pour l'année 2018-2019. Le plein budget devrait être attribué en 2019-2020. La direction du CII3S des Laurentides est heureuse de pouvoir compter sur ces sommes supplémentaires qui seront majoritairement consacrées à l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des soins et services offerts à la population des Laurentides. L'enveloppe 2018-2019 pour l'équité interrégionale permet d'attribuer des budgets imposants pour l'ajout et la consolidation de services à la population. Plus de 22 millions de dollars de l'enveloppe pour l'équité interrégionale seront directement investis dans la bonification des services aux usagers. Je parle maintenant avec Maryse Boucher, coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société Alzheimer de Lanaudière. Bonjour, Mme Boucher.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Oui, merci. Vous?
Je vais très bien, merci.
Oui, en forme pour la 19e édition de la Marche pour l'Alzheimer.
Il faut. On a une semaine très occupée avant la marche qui est ce dimanche 27 mai. Donc,
ça s'en vient quand même, à grands pas, pour ne pas faire de jeu de mots. Quels sont les services que la Société Alzheimer de Lanaudière propose, Mme Boucher?
On a une foule de services, autant pour les personnes atteintes que pour leurs proches aidants. On sait que pour chaque personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou tout autre trouble neurocognitif majeur, il y a une à trois personnes qui les soutiennent comme ça à chaque jour dans la maladie. Donc, nous, on a, entre autres choses, des formations pour les aidants pour mieux accompagner la personne atteinte sans toutefois s'oublier soi-même en tant que personne aidante.
Ouais.
On a aussi des formations pour les intervenants. On a des groupes de soutien pour les personnes atteintes en début de maladie et des groupes de soutien pour les aidants également. Et un service fort populaire de répit, d'accompagnement et de stimulation à la maison. Ça donne un répit à l'aidant qui prend une petite pause, mais ça fait aussi en sorte que la stimulation auprès de la personne atteinte aide à maintenir les acquis et ralentir le processus de la maladie.
Oui. Et comment on peut bénéficier de vos services?
Bien, vous nous appelez tout simplement à la Société Alzheimer de Lanaudière, 450-759-3057. Il y a toujours une personne humaine qui est là pour vous répondre
et
vous transférer à la personne responsable du service qui vous intéresse.
Est-ce que ça prend du temps avant d'avoir accès à vos services une fois qu'on a téléphoné?
Ça dépend pour quel service. Si vous avez besoin de parler avec une intervenante ou de vous intégrer aux groupes qui sont ouverts, les groupes pour les aidants, c'est très, très, très rapide. Ça peut être au moment même où vous appelez. Si, par contre, vous voulez avoir le répit accompagnement à domicile, malheureusement, on a une liste d'attente parce qu'on ne peut pas être dans toutes les familles en même temps.
Mm-hmm. Combien de temps à peu près l'attente?
Ça varie d'une municipalité régionale de comté à l'autre. On fait nos listes selon les secteurs de la région. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois.
Oui. Alors, il faut être patient. Et si on peut pas être patient, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, c'est sûr que nos intervenantes peuvent vous référer à d'autres services qui sont pour
il y a toujours des solutions.
On est dans un monde où les organismes communautaires manquent souvent de financement.
Malheureusement.
Alors, on va grappiller les services à gauche, à droite d'un organisme à l'autre. Donc, on peut vous référer au coop de soutien à domicile, par exemple, ou au C3S, vous indiquer la bonne personne à qui parler pour passer dans le chemin plus facilement.
Oui. Et la marche pour l'Alzheimer, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, vous marchez, mais ça se passe où? Qu'est-ce que vous faites pendant cette marche?
C'est un grand événement de sensibilisation et de financement. Moi, je peux vous parler de notre marche ici dans Lanaudière, mais je informe les gens qui préféreraient aller marcher dans une autre région qu'il y a une marche dans chacune des régions du Québec et même du Canada.
Le même jour?
Le même jour, le 27 mai, dernier dimanche du mois de mai.
Mm-hmm.
Ici dans Lanaudière, on fait un trajet de 5 km. On part du centre communautaire à Limpagé, qui est à Saint-Charles-Borromée, et on se rend jusqu'à un autre centre communautaire pour une petite pause santé, collation, qui est offerte à tous les marcheurs via des commandites. Merci. Et on revient ensuite vers Limpagé. Après l'événement, on a un dîner au hot dog. Tout est à 1 $ pour ceux qui veulent dîner avec nous. On a des prix de présence et des tirages pour les gens qui auront fait des collectes de fonds et qui seront considérés comme marcheurs élites. Pour être un marcheur élite, il faut amasser 200 $ ou plus. Donc, on a à faire tirer un forfait couette et café au Château Laurier à Québec.
Intéressant.
Et aussi une courte pointe faite à la main par les dames de cœur de Lanaudière.
Beau cadeau. Alors, est-ce que vous attendez beaucoup de marcheurs et de marcheuses?
On espère, s'il fait beau, avoir 400 marcheurs ici à Saint-Charles-Borromée.
Est-ce que vous avez encore de la place pour accueillir des marcheurs à Saint-Charles-Borromée?
Absolument. Les gens peuvent m'appeler à la Société Alzheimer. Ils peuvent aussi s'inscrire en ligne via support.alzheimer.ca. Ils peuvent aussi décider le matin même s'ils viennent nous joindre et s'inscrire le matin même avant la marche. Le départ est donné pour 10 heures, mais on est là dès 8h30 pour les gens qui veulent s'inscrire à la dernière minute.
Parfait. Et vos objectifs, vous avez parlé de billets pour les marcheurs élites. Est-ce que vous visez un montant particulier?
On espère aller chercher 35 000 $ avec cette marche-là et l'ensemble des sommes est réinvesti dans les services aux familles ici dans la Naudière. Si vous allez marcher dans une autre région, ça sera réinvesti dans la région où vous allez marcher.
35 000, donc c'est un nombre réaliste?
Nous avons réussi à l'atteindre l'année dernière. Ah. L'année dernière, on avait deux marches en même temps, une à Terrebonne, une à Saint-Charles-Borromée. Là, on en fait une seule cette année. On espère faire un seul grand rassemblement régional. Reste à voir si la réponse sera positive.
Bien, on vous le souhaite, puis on souhaite aussi qu'il fasse beau.
Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous.
Maryse Boucher, coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société Alzheimer de la Naudière. Bonne journée. Merci.
Merci à vous.
Nouvelle parue dans acadienouvelle.com, une catastrophe pour les jeunes diplômés. Le taux d'échec de nos aspirantes infirmières est une nouvelle très dramatique. Imaginez, vous rêvez de devenir infirmière et vous consacrez 5 ans de votre jeunesse à vous y préparer. Vous démontrez des aptitudes, des attitudes et des compétences qui justifient vos professeurs de vous permettre de vous présenter à l'examen. Puis, on vous bloque l'accès à la fin, l'accès à votre rêve, en vertu d'un examen traduit venu d'ailleurs. Au niveau individuel, c'est catastrophique. Et collectivement, nous perdons accès à leurs contributions au service des malades. Ces étudiantes ont été évaluées pendant leurs études théoriques et pendant leurs stages. Difficile d'imaginer qu'on les a laissées continuer jusqu'au bout alors qu'elles se seraient montrées inadéquates ou incompétentes. Je présume que la Faculté des sciences et l'école d'infirmières ont assumé leurs responsabilités. On ne doit pas laisser une étudiante continuer quand elle s'en va droit vers un échec. On doit présumer que ces étudiantes ont été jugées aptes. On peut se tromper pour quelques-unes, mais quand même, pas pour la moitié. Alors, quelle est la fonction de l'examen? Qu'est-ce que cet examen mesure? Est-ce un mécanisme arbitraire pour limiter le nombre de diplômés? Si c'est le cas, ce n'est certes pas dans l'intérêt public à un moment où nous manquons d'infirmières. Et c'est signé Daniel Baudry, Moncton. Le hockeyeur des Broncos Ryan Strashnitsky retrouve des forces à Calgary. Un jeune homme de 19 ans qui s'est retrouvé paralysé après le grave accident d'autocar des Broncos de Humboldt en Saskatchewan suit des séances de physiothérapie à Calgary. Ryan Strashnitsky fait des exercices 2 fois par jour au centre médical Foothills. C'est difficile, mais ça vaut le coup, dit-il depuis son lit d'hôpital. Je me sens beaucoup mieux. Récemment, lors d'un exercice, il apprenait à se déplacer depuis son fauteuil roulant jusqu'à un lit avec l'aide d'une planche de glissement. Il lui a fallu beaucoup de temps. Il essaie également d'apprendre à se tourner sur le côté une fois qu'il est allongé sur un matelas. Il lui faut alors tenir ses mains dans le dos et se balancer d'avant en arrière. Lors de l'accident du 6 avril entre un camion et l'autocar qui transportait l'équipe de hockey junior, Ryan a eu une colonne vertébrale abîmée. Un poumon perforé, des saignements à la tête et autour du bassin, ainsi que des côtes et la clavicule cassée. C'est fou que mon corps ait pu survivre à de telles blessures et que j'ai pu m'en sortir vivant, observe le jeune homme. J'en suis très reconnaissant. Il a des sentiments partagés et ressent parfois de la colère, mais note que cela ne lui arrive que de temps à autre. Ryan garde le contact avec d'anciens équipiers. Il entend un jour faire du hockey sur luge avec Jacob Wasserman, un autre hockeyeur qui a également perdu l'usage de ses jambes dans l'accident d'autocar. Marc Lévy renoue avec la comédie romantique. Ne cherchez pas l'assassin, il n'y en a pas. Marc Lévy, l'auteur français aux 42 millions d'exemplaires vendus dans le monde, a choisi la comédie romantique plutôt que le thriller pour son nouveau roman, déjà quasiment assuré d'être un des best-sellers de l'été. Une fille comme elle, publiée par Robert Laffont Versilio, bénéficie d'un tirage de 400 000 exemplaires. Parallèlement à la sortie de son 19e roman, la version poche du précédent, La dernière des Stanfield sort également en librairie chez Pocket avec un tirage de quelques 450 000 exemplaires. Le nouveau roman de Marc Lévy, qui, comme la plupart de ses livres précédents, se situe à New York, où l'écrivain réside depuis plusieurs années, est publié environ un mois après celui de l'autre poids lourd des lettres francophones, son rival et ami Guillaume Musso, qui caracole depuis en tête des ventes avec son thriller « La jeune fille et la nuit ». Quand on l'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à renouer avec la comédie romantique, Marc Lévy explique qu'il écrit par amour, par désir et par plaisir. La trame de son roman est assez simple. Dans un immeuble cossu sur la 5e avenue de New York, vit Chloé, une jeune femme en fauteuil roulant décrite comme resplendissante et lumineuse. Des pages de son journal intime sont régulièrement distillées au fil du roman, permettant au lecteur de découvrir in fine l'origine de son handicap. Les lecteurs les plus attentifs à l'actualité américaine pourront deviner bien avant les dernières pages ce qui est arrivé à Chloé, mais au fond, peu importe. Et vous hésitiez encore à vous inscrire au basketon du CIVA, c'est le moment ou jamais. Le basketon aura lieu samedi. C'est la journée parfaite pour essayer un nouveau sport et avoir du plaisir. Samedi 26 mai, venez essayer le basketball en fauteuil roulant. Vous participerez à une activité de financement unique, un super moment entre amis ou collègues. Vous soutiendrez ainsi le développement et le potentiel des athlètes qui ont un handicap physique. Ce sera assurément une journée fantastique. Alors, c'est samedi 26 mai, à l'école Joseph Charbonneau, 8200 Rousselot, Montréal. Tarif régulier, 200 $ par équipe, 5 à 8 joueurs. Date limite d'inscription, le 25 mai 2018 à 12 heures. Est-ce que c'est minuit ou midi? Mais c'est le 25 mai, une chose est sûre. Basketon du CIVA, pour vous inscrire, allez sur le site du CIVA, civa.qc.ca. Voilà, c'est tout pour les paractualités d'aujourd'hui. Merci à mes invités, Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale pour l'organisme Le Temps d'une pause, et Maryse Boucher, coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société Alzheimer de Lanaudière. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Hélène Denis, merci à vous d'avoir été présents. On se retrouve demain. Bonne journée.